Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap est au musée départemental de la Résistance et de la Déportation, au 52 Allée des Demoiselles. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. C'est un musée, certes, mais un musée où l'on parle plus du présent et de l'avenir que du passé. De ce dernier, on a retenu les leçons des combats, de la résistance et les valeurs fondamentales qu'elle nous a léguées. Ce musée départemental, puisque tel est son nom, a vocation à les transmettre, ces valeurs, à les vivifier, à les enseigner. C'est une véritable école de la citoyenneté, très fréquentée par nos jeunes de tous âges. Son directeur Guillaume Agulot nous en parle. Il est passionné et passionnant. Jugez-en. Bonjour, bonjour Guillaume Agulot. Alors nous sommes reçus par monsieur le directeur Guillaume Agulot, le directeur du musée de la Résistance et de la Déportation.
Bienvenue en effet, et à tout cet intitulé qui est déjà un petit peu long, on peut même rajouter le mot départemental, puisque ce musée a une particularité, une spécificité. Nous sommes un service du Conseil départemental de la Haute-Garonne. C'est le cas depuis sa création en 1994. Précédemment, un petit musée associatif qui fonctionnait, qui vivotait, créé par, avec beaucoup de courage, beaucoup de cœur, beaucoup d'amour aussi dans ce qu'ils avaient fait, créé par des résistants et des déportés. Et puis, ben, l'âge n'aidant pas, ils ont fait un petit peu le tour des collectivités territoriales à l'époque. Et ici, à Toulouse, c'est d'abord une institution, le conseil général à l'époque, et un homme hein, aussi, il faut le dire, Pierre Izard, le président de ce conseil général, qui a dit oui. Ce que vous dites, ce dont vous parlez, est important, est essentiel. Il faut absolument que ça soit pérennisé, que ça soit structuré. Et depuis ce moment-là, 1994, donc, nous sommes un service du Conseil général aujourd'hui, du Conseil départemental de la Haute-Garonne.
Alors c'est un musée, un beau bâtiment, hein, je viens d'y rentrer pour la première fois, qui se trouve aux Allées des Demoiselles, c'est ça?
Voilà, nous sommes 52 Allées des Demoiselles, on est donc dans un quartier qui est bien situé, que les Toulousains connaissent bien, bien identifié, pas très loin du Jardin des Plantes, le Muséum aussi, notre grand frère hein, en quelque sorte, qui est pas très très loin, le musée l'habite aussi, on cohabite donc avec plusieurs lieux culturels, et nous amenons ici aussi, pas que dans le quartier, hein, à l'échelle bien évidemment de Toulouse, de la Haute-Garonne et du Midi Toulousain, un regard aussi sur une certaine histoire et sur une certaine mémoire, et encore plus sur une construction de cette histoire et de cette mémoire, autour bien sûr de la résistance et de la déportation, et plus largement, des valeurs de la République, de la citoyenneté, de toutes ces questions qui aujourd'hui traversent un petit peu notre société, ce qui explique un véritable intérêt de la part des usagers pour ce site qui viennent non seulement savoir ce qui s'est passé pendant la période, mais aussi comprendre, peut-être pour chercher aussi des clés de compréhension sur un monde actuel de plus en plus incertain et complexe et qui appelle à explication ou en tout cas à approfondissement.
Alors pour éviter une confusion que font certains Toulousains, et moi-même d'ailleurs je l'ai faite, je suis un citoyen toulousain de base, il y a un peu plus loin, là, sur les allées, une espèce d'excroissance verte. Qu'est-ce que c'est ça? C'est aussi dédié à la résistance,
alors,
aux anciens
oui,
combattants, non?
Effectivement, à 150 mètres, 200 mètres de chez nous, et on est vraiment, on le voit, dans un périmètre de mémoire sur la Seconde Guerre mondiale, la résistance et la déportation, pas très loin de chez nous, il y a le mémorial à la gloire de la résistance. Plus exactement, le monument à la gloire de la résistance. Et donc là, on est vraiment dans une œuvre monumentale, une espèce de tumulus, une dôme bombé, recouvert d'herbe, une sculpture impressionnante qui s'élève vers le ciel, comme des flèches, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est une traduction, en fait, en sculpture, d'une phrase qui est devenue célèbre, évidemment, aujourd'hui, celle qui clôt l'appel du général de Gaulle. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Eh bien, cette sculpture qui s'élève et qui représente un peu les flammes qui s'élèvent vers le ciel ne s'éteindront jamais puisque cette sculpture est en airain, matériau symboliquement associé à la permanence qui traverse le temps, qui traverse les siècles. Donc c'est un endroit qui est assez intéressant, qui mérite d'ailleurs, petite annonce pour nos collègues, qui mérite vraiment qu'on y aille, qu'on y rentre, qu'on s'y perde, qu'on accepte de prendre, de mettre son temps un peu entre parenthèses pour aller découvrir cet endroit en souterrain, faire ce parcours, parcours à la rencontre d'une mémoire, parcours à la rencontre d'émotions qui sont suscitées par le bâtiment lui-même, la construction, les sons qu'il habite, les images aussi qui l'imprègnent et qui sont en fait complémentaires. Ici, si vous voulez, nous sommes le lieu où nous parlons de l'histoire. Nous parlons de ces faits, nous les expliquons avec des objets, des documents, des archives. Là-bas, pas très loin, on n'est plus sur un bâtiment qui va nous permettre de ressentir et d'exprimer des émotions par rapport à cette période-là. Donc, pas du tout en concurrence, bien évidemment, bien au contraire,
nous sommes complément.
En totale complémentarité.
Alors, on dit musée de la résistance. Alors, la résistance, ben, c'est intemporel. Bien qu'il me semble qu'autour de nous, il y ait de moins en moins de résistants, on y reviendra peut-être. Mais quand on dit résistance et déportation, on fait allusion à une époque de notre histoire bien précise.
Tout à fait. Tout à fait. On fait essentiellement référence à cette période, il y a un peu plus de presque trois quarts de siècle maintenant, où la résistance chez nous s'est incarnée. Des femmes, des hommes qui ont simplement, à un moment donné, dit non. Et ont agi à partir de ce non, ont agi en accord avec leur conscience. Résister, c'est prendre position, c'est choisir de ne pas accepter, mais c'est aussi agir. Sans acte, il n'y a pas de résistance. Et c'est de ça dont on parle ici.
La résistance passive, ça n'existe pas.
La résistance passive n'existe pas. Il y a, par contre, plein de formes de résistance.
Quand Gandhi il faisait de la non-violence, il n'était pas résistant.
La non-violence,
alors,
c'est de la résistance. Ça n'est pas de la résistance passive, ce que fait Gandhi. Ce que fait Gandhi, ce que faisait Gandhi, ce que d'autres aujourd'hui ailleurs dans le monde font, c'est justement des actes. Mais des actes qui ne reprennent pas la codification ou l'imagerie générale que l'on peut se faire. Résister, souvent, on l'associe à prendre les armes. Prendre une arme, faire sauter un train, un pont. Il y a eu ça, il y a eu tous ces gestes-là. Résister, c'est aussi ouvrir sa porte à un enfant qui est pourchassé. Résister, c'est refuser de donner des noms. Résister, c'est volontairement égarer un service de police qui est à la recherche d'un fugitif, d'un fuyard, et l'envoyer dans une mauvaise direction.
Ça, c'est du Brassens, c'est plus de la résistance.
C'est déjà de la résistance. La résistance, ça commence par une prise de position mentale. Je ne veux pas. Mais si ça se... Je n'accepte pas.
Quelle est la différence entre la résistance et la désobéissance civile ?
La désobéissance civile peut, dans certains aspects, prendre l'aspect de la résistance, peut devenir résistance. Si cette désobéissance civile, je refuse de soutenir un gouvernement qui fait telle ou telle chose, se traduit en acte. C'est-à-dire, puisque je refuse de faire ça, alors je vais faire quelque chose qui va à l'encontre de ce qui m'est imposé. À partir du moment où il y a un acte qui va à l'encontre, là, ça y est, on est dans un acte de résistance.
Alors, prenons un exemple de quelqu'un qui revient, qui est passé dernièrement d'ailleurs sur notre radio, Esprit Occitanie, Cédric Héroux, bien connu. Est-ce que le fait d'aider des migrants, est-ce que je suis résistant ?
Oui, on est déjà dans un acte. On ne se contente pas d'être indigné face à une situation qui nous déplaît, dans laquelle nous ne nous retrouvons pas. Mais on est dans un acte qui d'ailleurs, hein, puni par la loi, qui contrevient à la loi, et Cédric Héroux en a fait les frais, hein, dans tous les sens du terme.
Lui et d'autres,
pas, hein. Et donc là, oui, on est dans un acte de résistance, doublement peut-être même, si je peux me permettre, d'abord parce qu'il fait un acte lui-même, et en plus parce qu'il se sert de cet acte-là pour alerter nos consciences. Et résister, c'est aussi ce moment où on décide que notre acte doit servir d'exemple à d'autres. Donc, à un moment donné, il faut que cet acte-là soit connu, su par d'autres, le plus grand nombre possible, évidemment, si c'est faisable, pour que ça nous permette d'amplifier cette réponse et cette opposition.
Alors, celui qui va, par exemple, révéler certains scandales, par exemple fiscaux, on en a vu, ce qu'on appelle
Lanceurs
d'alerte, voilà le nom me manquait. Est-ce qu'un lanceur d'alerte est un résistant ?
Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de quoi il nous parle. Souvent, certains des lanceurs d'alerte dont on nous parle sont juste des personnes qui nous mettent au jour des choses qui sont publiques, qui ont été imprimées et qui sont passées, on va dire, un petit peu sous le radar Ben, simplement, eux, leur rôle est d'alerter et de dire, ben, ça, c'est public. Donc là, il n'y a aucun risque, aucune prise de risque, si ce n'est moral, si ce n'est d'une certaine pression.
On peut se retrouver devant les tribunaux, on l'a vu.
Alors, on se retrouve dans les tribunaux si on fait, si les lanceurs d'alerte, c'est un deuxième aspect de ces lanceurs d'alerte, si les lanceurs d'alerte se retrouvent en réalité à désobéir à une loi. On est dans de la désobéissance. Et souvent, d'ailleurs, leur rôle...
Je me souviens d'avoir reçu sur une émission une dame qui s'appelle Céline Boussier, qui avait révélé que certains EHPAD ou certains établissements de ce type-là avaient de la maltraitance. Elle en a encouru les foudres, quand même. Elle a une vie très difficile qui perdure encore aujourd'hui. Je crois qu'elle s'est fait encore agresser la semaine dernière.
Oui, oui, oui.
Une agression un peu particulière, puisqu'elle a été atteinte par une pomme. Enfin, une pomme lancée avec une botte force, ça peut faire très mal. Donc ça veut dire que ces gens-là, même s'ils n'ont fait que révéler quelque part, ils ont pris un peu les armes intellectuelles.
Les armes intellectuelles, c'est-à-dire ne plus accepter une situation et faire en sorte d'agir pour ce que l'on considère comme inacceptable, inacceptable au sens incompatible avec ce qui nous fait notre, incompatible avec les valeurs de la résistance, à ce moment-là, effectivement, on décide de s'engager et de s'impliquer. Pour autant, attention, tout n'est pas résistance. Il ne suffit pas que quelqu'un proclame à la face du monde « je suis un résistant » pour le devenir immédiatement. Bien évidemment...
Il y en a qui l'ont proclamé, mais c'est ce qu'on appelle de la dernière heure, cela.
Alors, il y en a eu effectivement 45, il y en a encore aujourd'hui qui nous expliquent que leur prise de position contribue à édifier les... etc. Soyons clairs, soyons sérieux. La résistance, c'est aussi un acte d'engagement pour soi et pour les autres que l'on fait pour un monde, évidemment, que l'on souhaite meilleur et un monde qui corresponde à des valeurs d'émancipation, celles justement pour lesquelles les résistants se sont battus, il y a un peu plus de trois quarts de siècle.
Donc il n'y a pas de résistance sans valeur.
Si, la résistance elle-même est une valeur, c'est la valeur de l'engagement, et peut-être qu'aujourd'hui dans notre société, où l'engagement devient suspect par principe, peut-être que c'est déjà quelque chose sur lequel il faudrait réfléchir. C'est le premier aspect de la réponse. Il y en a un deuxième. Bien sûr que la résistance est une valeur. C'est une valeur dans le sens où elle nous promet, où elle nous incite à nous engager pour un monde meilleur, débarrassé de toutes ces scories ou de tout ce qui va l'entraver, de tout ce qui va entraver nos propres libertés au profit d'une mise sous coupe bien réglée de la société.
Alors, le musée est dédié ici à la mémoire. La mémoire de quoi ?
Le musée est dédié d'abord à la mémoire de ces femmes et de ces hommes qui ont incarné chez nous, dans un contexte de dictature, de violence, d'occupation nazie. Il ne faut pas l'oublier, hein, ici, pendant une année et demie, de fin 42 à l'été 44, le territoire toulousain, du Midi toulousain, a été occupé et en a subi les foudres et les stigmates, bien évidemment. Face à cette dictature, la dictature du régime de Vichy, face à l'occupation nazie, des femmes et des hommes se sont levés, ont refusé ce qui était imposé et ont décidé de s'engager. Et ce sont ces femmes et ces hommes dont nous portons en premier la mémoire, bien évidemment. Mais porter la mémoire, il faut que ça ait un sens. Si on faisait tout un musée pour dire hommage à nos copains qui sont morts dans les maquis, hommage à ces glorieuses figures grâce auxquelles nous sommes libres, ça serait déjà très très bien et ce serait mérité pour leur part. Mais je ne crois pas que ça les intéresserait à eux, à ces femmes et ces hommes à qui nous adresserions ce message. Résister, c'est du coup aussi nécessairement porter un regard, une réflexion sur notre monde actuel. Et aujourd'hui, cette liberté dont nous bénéficions, qu'en faisons-nous ? Comment nous engageons-nous pour la protéger ? Parce qu'il y a en filigrane quelque chose qui doit être essentiel. Ces personnes, il y a trois quarts de siècle, ont résisté de cette manière-là, ont pris les armes, ont pris des feuilles de papier, ont pris les armes de l'esprit ou les armes physiques, peu importe, pour restaurer la liberté. Pourquoi ? Parce qu'ils en étaient privés, tout simplement. Ils auraient certainement préféré s'engager d'une autre manière, moins dangereuse, y compris pour eux, simplement s'ils en avaient eu la possibilité. Il y a eu de la résistance parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement pour rétablir cette liberté. Aujourd'hui, y compris grâce à leur sacrifice, nous sommes libres. Et parce que nous sommes libres, nous n'avons aucune conscience de ce que ce mot signifie. Tout simplement parce que nous avons toujours été libres. Qu'on ne sait pas ce que ça veut dire une société privée de liberté. On le voit à la télé, On peut en lire dans différents livres, dans des publications. On peut écouter des émissions à la radio qui nous parlent d'ailleurs où la liberté est supprimée. Et on peut s'en indigner. On peut au fond de soi en être révolté, en être révulsé. Nous, on ne sait pas ce que c'est intrinsèquement. Nous, au fond de nous-mêmes, on ne sait pas ce que c'est que vivre privé de sa liberté. Ces personnes qui ont fait, qui se sont engagées il y a trois quarts de siècle, elles savaient. Pas parce qu'elles l'avaient choisi, pas parce qu'elles l'avaient voulu, pas parce qu'elles l'avaient désiré, mais parce que c'était la situation, le monde dans lequel ces personnes étaient. Un monde privé de liberté, dans lequel le seul moyen d'exprimer une opinion différente ou de s'engager pour changer les situations, c'était justement de s'engager dans la résistance.
Alors eux, ils avaient connu effectivement une situation un peu exacerbée, hein, où les... mais est-ce qu'aujourd'hui, si on veut faire un parallèle, est-ce que nous sommes véritablement libres aujourd'hui? C'est beaucoup plus insidieux, la chape autrefois était physique, était violente. À partir du moment où, effectivement, il y a des problèmes au niveau du travail, au niveau de l'emploi, on est dans une démocratie, peut-être, certainement d'ailleurs, on est dans une démocratie, mais qui est loin d'être parfaite, si on regarde, par exemple, la presse, les journaux, etc. Est-ce que l'acte de résister aujourd'hui, sous d'autres formes, mais c'est toujours très moderne?
Nous sommes dans une démocratie malade et fragile. Les seuls régimes... les seuls systèmes qui n'ont pas besoin de résistance, ou de cet esprit de résistance, comme on dit, ce sont les démocraties parfaites.
Eh bien, il n'y en a pas des démocraties parfaites. Et vous en connaissez, non, il n'y en a pas.
Hein. Et non, il n'y en a pas. Et donc, à des degrés plus ou moins importants, et aujourd'hui, dans notre pays, le degré est très important, très très important, parce que notre démocratie, l'idée même, l'idéal même de démocratie, est extrêmement abîmée. Aujourd'hui, dans notre démocratie, nous avons absolument besoin de revivifier cet esprit de résistance. Justement parce qu'on en a encore la possibilité de le faire librement. On a encore aujourd'hui la liberté de s'exprimer. On a encore aujourd'hui la liberté de s'engager. Mais qui le fait? Qui prend pour soi, qui s'accapare ces libertés? Qui les fait vivre? Qui les porte? À notre sens, trop peu de personnes. Et si on veut que, si on n'accepte pas cette situation, ben il y a deux possibilités. Soit on reste dans son coin et on bougonne, et on gueule contre tout ce qui n'est pas nous, tous les autres, hein, puisque c'est jamais de notre faute si les choses vont pas bien. Évidemment, nous, on est tellement bien, tellement beau, tellement parfait. Donc, c'est nécessairement les autres. Donc, on va gueuler contre les autres. Ça, c'est une possibilité. Il y a une autre possibilité. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour changer cette situation-là? Comment on s'engage? Comment on s'implique? Notre réponse à nous, ici, au Conseil départemental, c'est de dire, voyons comment ce que ces femmes et ces hommes ont fait il y a trois quarts de siècle peut nous éclairer, peut nous aider à mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. En quoi porter leur mémoire peut nous aider à construire nos engagements actuels? La situation est différente, bien évidemment. La géographie est différente aujourd'hui. L'Allemagne, bon, Angela, on l'aime pas beaucoup, Angela Merkel, bien sûr, mais on ne va pas aller refaire la guerre contre les Allemands, soyons clairs. En plus, ils ont été éliminés de la Coupe du Monde. Donc, un motif de tension de plus qui vient de disparaître.
Et puis Angela pourrait être éliminée tout court de la politique, elle n'est pas dans une bonne passe. Hein.
Et oui, Angela, donc bon, aujourd'hui, on sait bien que la situation est différente. Pour autant, l'esprit de résistance qui doit nous animer, ne pas laisser faire quand c'est inacceptable, ne pas accepter ce qui est inacceptable, c'est ça que nous devons
cultiver. C'est un révolutionnaire, un résistant?
Un résistant, c'est quelqu'un qui refuse l'ordre établi. Dans ce cas-là, oui, c'est un révolutionnaire.
Donc on est dans une maison qui prône la révolution, finalement.
On est dans une maison qui prône la démocratie. C'est-à-dire la dispute, c'est-à-dire la possibilité d'être pas d'accord. C'est-à-dire la possibilité de se dire « j'ai besoin de l'autre pour pouvoir me construire moi-même ». On est dans une maison qui prône la démocratie, donc la dispute, je l'ai dit, et donc la fraternité. On ne peut pas séparer l'un de l'autre.
Tout ce que vous dites là est fabuleusement intéressant et en prise directe avec la réalité. Mais quand on regarde le titre que je citais au début, Musée de la résistance et de la déportation, ça peut apparaître un peu historique et poussiéreux.
Oui.
Alors qu'en réalité, tout ce que nous disons là aujourd'hui, qui me semble parfaitement essentiel, fait de cette maison finalement un foyer de pensée, de réflexion, voire de combat.
Et c'est justement ce que nous sommes en train de pointer et sur lequel nous avons axé une réflexion largement ouverte. Nous sommes en train d'adopter un nouveau projet scientifique et culturel. Et dans ce projet scientifique et culturel se pose effectivement la question du changement de dénomination ou en tout cas d'adaptation de la dénomination. La mémoire de la résistance et de la déportation restera toujours notre cœur, notre matrice. C'est notre socle. Sans ça, on discuterait dans l'air. On discuterait dans un éther confortable. On parlerait de philosophie. Ça serait super intéressant. Mais on a besoin de ce socle, on a besoin de cette matière qui nous ancre dans ce que cela fut.
Donc on revient aux valeurs du Conseil de la Résistance qui sont un peu finalement intemporelles. On ne peut pas ne pas évoquer non plus Stéphane Hessel. On parlait de s'indigner tout à l'heure.
Bon, et oui.
Indignez-vous, Stéphane Hessel, un livre qui a eu un retentissement
phénoménal
et certainement le plus grand succès de l'édition des 20 dernières années, oui. Minima, voilà, qui a été publié par une petite maison, enfin une petite maison, maison connue, indigène, avec Jean-Pierre Barou et Sylvie Crossman, qui étaient dernièrement d'ailleurs à Ombre Blanche pour la signature de leur dernier livre. Alors, vous le vendez ici, Stéphane Hessel ?
Non, nous on ne vend rien.
Vous ne vendez pas ? Il n'y a pas de librairie dans tous les musées, normalement.
Il n'y a pas de librairie.
Il y a une librairie.
Ça fait partie des choses qui vont certainement se mettre en place, ce que j'expliquais la réflexion. Le projet scientifique et culturel qui va se changer, la dénomination du musée probablement qui va s'adapter, le musée lui-même qui va fermer, mauvaise nouvelle pour vos auditeurs, au mois de mars prochain le musée ferme, et excellente nouvelle, au mois de janvier 2020, le musée rouvre, agrandi, avec de nouveaux espaces, tout simplement parce que ici nous sommes à l'étroit, la maison est belle, la maison est grande, et pourtant pour répondre correctement aux demandes des citoyens, des professeurs, ou des simples usagers qui viennent, on a besoin de s'étendre, tout simplement parce qu'il y a un vrai besoin de savoir, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi de comprendre. On parlait de Stéphane Hessel. Indignez-vous. Oui, c'est vrai. On a oublié une chose. Indignez-vous, parce que l'indignation, c'est précieux. Ce sont ses mots à lui. Et quand on est indigné, comme j'ai été indigné moi-même par le nazisme, alors on trouve en soi la force de s'engager. Parce que dès la première page, si Stéphane Hessel nous dit « indignez-vous », il nous explique bien que l'indignation, c'est le moteur pour l'engagement. Ce dont nous sommes malades aujourd'hui dans notre société, c'est de l'engagement. Les gens continuent trop souvent à rester autour de leur propre petit nombril, à observer leur propre petite personne qui tourbillonne autour d'autres propres petites personnes et qu'on s'observe avec bienveillance ou avec violence ou avec dédain ou avec mépris. Mais ce qui compte, c'est « je ». C'est plus nous, c'est plus penser l'autre comme faisant partie d'un ensemble, d'une cohérence, penser une société, tout simplement. Une société, ça n'est jamais, ça ne sera jamais une addition d'individualité. Ça ne peut pas fonctionner ainsi. Or, dans un monde aujourd'hui qui promeut l'individualisme, d'abord parce qu'il faut posséder, avoir et à posséder et avoir plus que l'autre, mais aussi, il faut que je me protège des autres parce que les autres vont venir me voler le peu que j'ai, au lieu de penser commun, au lieu de penser cohérence, au lieu de penser accueil, au lieu de penser fraternité.
On n'y pense pas beaucoup quand même, accueil et fraternité.
On y pense trop peu. Et l'actualité terrible de ces dernières semaines, où on voit des hommes politiques qui sont censés représenter nos pays, qui discutent entre eux pour savoir s'il est cohérent ou pas d'accepter des bateaux sur lesquels se trouvent... On est en train de parler de vie humaine qui s'arrache dans des conditions effroyables à des territoires en guerre, sans même se poser la question d'ailleurs de savoir pourquoi
il y a la guerre et comment est-ce qu'on n'est pas un peu responsable de ça.
Ces territoires se retrouvent en guerre et on parle de personnes qui fuient sur des bateaux qui flottent à peine pour sauver leur vie. C'est de ça dont on est en train de parler. Eh ben non. On est en train, en réalité, de nous expliquer capacité d'accueil, possibilité de benchmarking. Quand un ministre de l'Intérieur de la République française ose tenir publiquement des propos dans lesquels il nous explique que des migrants sont des personnes qui font du benchmarking, du comparatif, pour savoir où aller déposer une demande d'asile, mais dans quelle République est-on ?
Alors, il y a un temps où on a été quand même un peu plus ouvert. Puisque là, je crois qu'on a accueilli quelques milliers, mais on doit en parler certainement, puisque tout à l'heure, nous allons aller avec vous dans les étages, on doit en parler, c'est la retirade. Dans la retirade, en 15 jours, en fin janvier 39, début février, on a accueilli, un peu contraint et forcé d'ailleurs, enfin 500 000 personnes qui ont passé l'école catalan.
Les mots sont importants, on ne les a pas accueillis, on les a recueillis.
On les a recueillis, tout à fait.
Ce qui n'est déjà pas la même chose.
Dans et après, on les a parqués sur des plages en hiver, avec le froid, dans des conditions tout à fait indignes. On les a séparés aussi des enfants, comme le fait un certain président américain.
Tout à fait.
Et ensuite, comme on s'est demandé ce qu'on allait en faire, on a dit qu'on pourrait peut-être les mettre dans des camps, les regrouper, les concentrer. Et donc nous sommes, je crois, un peu les sinistres inventeurs des camps de concentration.
Alors on n'est pas les inventeurs des camps de concentration, parce que quand on dit le mot camp de concentration, oui, c'est les gens dans lesquels on concentre des personnes, c'est-à-dire on les rassemble, nombreux dans un territoire restreint. D'accord, c'est vrai qu'il y a ça. Mais quand on entend, nous, camp de concentration, on entend autre chose, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on entend Buchenwald, on entend Mauthausen, on entend Dachau.
Ben ça, c'est Auschwitz. La traduction industrielle, finalement, de la chose. Nous sommes restés à l'artisanat.
En réalité, nous avons pensé, la République française, en 1939, a pensé, mis en place, développé, déployé des camps d'internement, c'est-à-dire des lieux de regroupement dans lesquels il n'y avait rien. D'ailleurs, le Argelès, le Barcarès, au début, c'est la plage, le sable, il n'y a pas de baraque, il n'y a pas d'eau. La première citerne d'eau qui arrive au camp du Barcarès, c'est 6 jours après les premiers internés. D'ailleurs, pendant 6 jours, on les laisse sans eau potable. 6 jours après les premiers internés, mais de toute façon, c'est une citerne d'eau, la première qui arrive, et ils sont entre 75 et 80 000 internés. Donc pour boire l'eau, on se recule le plus possible de la plage pour éviter la mer et l'eau salée, on fait un trou dans le sable et on boit l'eau qui est à 3-4 mètres de profondeur, saumâtre, et puis rapidement souillée, parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilette. Bon, etc., etc. Ça, c'est la République française de 1939. Et comme vos auditeurs sont tous d'excellents calculateurs mentaux, ouais, le calcul mental est une chose qui s'oublie un peu, mais pas chez vos auditeurs. Je sais qu'ils ont cette pratique régulière et efficace. Et bien, on va faire ce petit exercice-là. On va prendre 1939, l'année dont nous parlons. On sait que c'est la République qui est en cause. Ce n'est pas le régime de Vichy. Le régime de Vichy, c'est un an après. C'est la République. Et on va enlever 150 à 1939. Et 150, si on les retire à 1939, ça nous amène à 1789. C'est-à-dire qu'au moment où la République française accueille dans des conditions absolument indignes des républicains espagnols, ne l'oublions pas, en Espagne, le gouvernement légal et légitime à ce moment-là, c'est la République. L'Espagne est une République depuis le 14 avril 1931. Eh bien, la République française accueille des républicains espagnols dans des conditions encore une fois indignes, 150 ans après la Révolution française, c'est-à-dire au moment où elle célèbre, et avec combien de faste, le 150e anniversaire de sa Révolution, en valorisant les termes de liberté, égalité, fraternité, toutes ces valeurs qui vont naître justement et s'exprimer justement à ce moment-là. Ça doit absolument nous interroger, parce que j'ai aucun problème à le dire, parce que c'est un fait. L'internement administratif des républicains espagnols, qui mérite à lui-même non pas une émission, mais une série d'émissions, j'en suis intimement convaincu, c'est encore aujourd'hui une tache indélébile sur la mémoire, la tradition et l'honneur de la République française. C'est une tache indélébile. On pourrait l'accepter, on pourrait surtout ne pas la cacher, on pourrait le dire, on pourrait le montrer, on pourrait l'expliquer, on pourrait en tirer compte, on pourrait en tirer usage, on pourrait en tirer bénéfice, profit, réfléchir à ces cheminements intellectuels de renoncement progressif qui nous ont amenés à faire ça. Eh bien, c'est pas ce qu'on fait. 80 ans après cet accueil indigne, qu'est-ce qu'on fait ? On refait la même chose. On refait la même chose en se drapant des mêmes arguments, en se parant des mêmes artifices.
À part qu'on ne les reçoit plus.
On les reçoit plus.
On les empêche de rentrer.
On ne les reçoit plus.
On les avait. N'oublions pas aussi que ces républicains espagnols, mais ça pourrait faire l'objet d'une émission, on la fera certainement un jour avec vous, se sont retrouvés après dans la résistance.
Bien sûr.
Et je crois que lorsque Paris a été libéré, dans les Charles Leclerc, il y avait plus de républicains espagnols que d'autres, et ça on ne le dit jamais.
Dans la compagnie du capitaine Drone, ce qu'on appelait la Nueve, rien que son nom disait tout, la Nueve, la 9e compagnie de ce régiment blindé, de la 2e division blindée, le régiment commandé par le capitaine Drone, ils sont pas tous, quasiment tous, espagnols. Avec une autre histoire, tiens d'ailleurs, c'est pas ceux qui étaient sur les plages du Roussillon, ceux-là. Ce sont les tout derniers qui évacuent l'Espagne républicaine, notamment les ports d'Alicante et les ports de Grenade, et qui partent où ? La seule zone, le seul territoire qui soit accessible à ce moment-là, c'est les côtes d'Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Algérie. Et l'Algérie, à l'époque, c'est la France. Et on va leur faire, en Algérie, le même accueil qu'on leur a fait en métropole. Tout de suite, l'internement, sauf que là, c'est l'internement dans le sable du désert, dans le sud de l'Algérie et le sud du Maroc. On va leur faire poser les rails du transsaharien, une ligne de chemin de fer, qui était un projet complètement fou, complètement utopique. Il en reste quelques traces aujourd'hui de mémoire, un peu abandonnées dans des sables très émouvants quand on y revient et qu'on voit cette prégnance-là de la mémoire et qu'on se dit qu'on a osé faire ça à d'autres hommes. Des républicains ont osé faire ça à d'autres hommes. C'est une vraie tâche sur notre conscience.
Les Américains l'avaient fait poser aussi les rails des chemins de fer par les Chinois à l'époque, qui ont crevé par milliers là-bas. Hein,
absolument.
Ça. Donc c'est une les tradition,
Chinois
ça.
Et les populations noires, hein, on allait les chercher officiellement, le Nord n'était plus esclavagiste, le Sud non plus, paraît-il, après la guerre de sécession, quand il s'agit de conquérir les grands espaces américains. On oublie tous ces principes-là pour revenir sous couvert d'engagement de contrat à des conditions d'esclavagisme et d'exploitation. Je ne suis pas convaincu que les choses aient radicalement changé aujourd'hui, mais bon, il paraît que ce n'est pas grave, puisque ça permet à tous nos adolescents, et même un peu plus âgés, d'avoir des jeans pas chers, des t-shirts à la mode, sans qu'on réfléchisse la moindre seconde aux conditions dans lesquelles ces choses-là sont produites, alors qu'on le sait parfaitement, parce qu'on refuse de se poser la question. Ce qui compte, ça n'est plus nous, le monde dans lequel nous sommes, ce qui compte, c'est moi, je, ma place dans le monde dans lequel je suis. Et tant qu'on n'aura pas changé cette façon de penser l'autre, de penser le monde, de penser la société, on pourra continuer à parler pendant des décennies de l'histoire de la résistance, ça ne changera rien. Ce que nous devons faire en priorité, en premier, et ça commence par l'école, c'est donner aux enseignants les moyens d'expliquer à nos enfants que le monde dans lequel nous sommes n'est pas le nôtre. Le monde dans lequel nous sommes, si nous y sommes, c'est parce qu'il correspond à un état d'esprit, à des valeurs, et que si nous voulons nous en montrer dignes, alors nous devons à notre tour nous engager dans un état d'esprit et pour ces valeurs.
Alors revenons à ce musée que vous dirigez, il y a un centre de recherche, je crois.
Oui.
C'est ça. Donc qu'est-ce que c'est le centre de recherche du musée de la
Résistance ? Un centre de recherche, c'est plusieurs choses. C'est bien sûr permettre à des étudiants sur des thèmes très précis d'avoir accès à toute une série de publications, de livres, de travaux universitaires, de brochures, etc., qu'on aurait du mal à trouver ailleurs. Ben, ici, tout est rassemblé parce que c'est notre thème, évidemment, de travail. Et donc, nous avons une masse documentaire qui est assez intéressante. C'est aussi leur permettre d'avoir accès, par exemple, à d'autres archives, d'autres types de documents qu'ils ne pourraient pas avoir s'ils étaient, par exemple, dans un service d'archives départementales.
Ça veut dire que vous avez un fonds de documents extrêmement important.
Alors, il n'est pas extrêmement important en volume. Nous possédons ici quelques mètres linéaires d'archives. Dans n'importe quel service d'archives départementales, on parle en kilomètres.
Oui, qui ne sont pas exploités, mais qui sont entassés.
Qui existent. Et qui ne sont pas toujours tout le temps exploités, bien sûr. Ce n'est pas l'objectif des archives. L'objectif des archives, qu'elles soient départementales, municipales ou nationales, c'est de conserver la mémoire. Parce que si nous, ça ne nous intéresse pas, si nous, on ne voit pas l'intérêt de les exploiter, quelqu'un peut-être un jour.
Conserver sans l'utiliser et sans en faire son miel, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Enfin, c'est mieux que rien, on va dire.
C'est déjà une première obligation. Les archives, et notamment nos collègues des archives départementales, ont quand même une vision, je vous rassure, beaucoup plus ouverte de ce que c'est un fonds documentaire et de ce que c'est une mise à disposition d'un fonds archivistique et documentaire, et réalise d'ailleurs des travaux, y compris avec des scolaires, remarquables, absolument remarquables. On leur doit, par exemple, pour 14-18, ça a été un grand temps mémoriel, c'est toujours un grand temps mémoriel des temps que nous vivons, on leur doit une campagne de recollecte d'informations, d'archives, de documentation personnelle, familiale, absolument incroyable, et qui viennent justement éclairer autrement, humaniser, j'allais dire, des liasses et des liasses de rapports administratifs, préfectoraux, généraux, normés, parce que c'était ce qu'on demandait à leurs auteurs à ce moment-là, et qui viennent réellement apporter une autre vision de ce qu'était ce conflit. Donc, la première de nos actions, quand on conserve ces documents-là, c'est d'abord justement de faire en sorte qu'ils ne soient pas perdus, qu'ils soient identifiés. Et ensuite, bien sûr, on va les exploiter. Notre collection, à nous, elle est très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle est extrêmement émouvante. Tout ce que nous avons, ce sont des dons. Ce sont des choses personnelles, intimes, familiales.
Et régionales.
Régionales, à l'échelle évidemment de notre emprise.
Voilà, sur le fond, mais la vocation du musée est de toute façon universelle.
La vocation du musée est universelle. Mais nous développons, nous appuyons un discours qui se veut universel ou universaliste, nous appuyons ce discours-là à partir de connaissances et d'un fond local. Parce que ça s'est passé chez nous, parce que ça s'est incarné chez nous. C'est le moyen, par exemple, de dire à des élèves, cette histoire, c'est votre histoire. Ce dont on vous parle, c'est votre histoire. Pas parce que je suis en train de vous parler de vos grands-parents ou arrière-grands-parents. Non, c'est votre histoire parce que ça s'est passé là où vous vivez. Et si ça s'est déjà passé une fois, alors il n'y a aucune raison que ça ne puisse jamais recommencer, se reproduire ici ou ailleurs. Notre objectif, c'est vraiment faire en sorte que ces jeunes, c'est l'essentiel de notre public, ces jeunes comprennent que la résistance et la déportation, c'est pas simplement 3 pages dans un manuel scolaire. Que la résistance et la déportation, c'est pas simplement quelques figures dont on nous parle régulièrement à la télé. Que la résistance et la déportation, c'est pas, fût-ce avec émotion, telle ou telle personne que l'on met à l'honneur au moment où elle disparaît ou au moment où la nation décide enfin et justement de l'honorer par le placement de sa dépouille dans un lieu qui rassemble les grands hommes, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, fut-elle une femme absolument extraordinaire, une femme d'exception dans l'intégralité de sa vie et de ses engagements. Non, la résistance et la déportation, c'est aussi quelque chose qui s'incarne chez nous et donc qui doit à un moment donné trouver un écho en nous. Considérez que cela fut. C'est un vers absolument magnifique qui est dans un poème, dans un texte sublime de Primo Levi. Considérez que cela fut. Cela fut. Et donc, puisque cela fut, nous devons prendre notre part pour emporter la mémoire, ne serait-ce que pour protéger notre présent et nous aider à construire l'avenir.
D'où la phrase que j'ai relevée sur le site du musée, un lieu essentiel pour l'éducation à la citoyenneté.
Effectivement, c'est, vous l'avez compris hein, depuis que nous avons commencé cet échange, l'histoire, la vocation du musée, c'est de parler d'avenir. L'histoire de la résistance, d'ailleurs, ne sert qu'à ça. Parler d'avenir, celui que l'on veut, celui que l'on souhaite, pour soi-même, pour les générations qui, après nous, vont arriver, vont nous succéder, vont nous suppléer et devront, à leur tour, prendre ce flambeau-là.
Alors, est-ce qu'il ne faut pas rebaptiser le musée? Parce que quand on parle de musée, on entend passer automatiquement, et là, on ne fait que parler d'avenir.
Oui. Alors, c'est peut-être un tort, ou peut-être que vos questions m'ont d'emblée amené à vous parler d'avenir. Non, le musée, ça parle d'abord aussi du passé, c'est-à-dire qu'encore une fois...
On a besoin d'un socle.
L'histoire de la résistance et de la déportation, sa mémoire, c'est notre socle. Et tant que le socle n'est pas solide, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, vous n'arriverez jamais à bâtir. Un socle solide, c'est un socle dans lequel tout le monde se retrouve. C'est-à-dire un socle, une base, un territoire sur lequel tout le monde accepte de venir se retrouver pour ensuite porter et élever ensemble. Si déjà vous construisez un socle, c'est-à-dire des transmissions de mémoire qui excluent telle ou telle catégorie de personnes qui ne s'y retrouvent pas, parce que leurs histoires ne correspondent pas, parce que c'est pas dans la doxa cohérente, parce que typiquement les étrangers dans la résistance, pendant très longtemps, des décennies, on nous a expliqué que tous les résistants, c'était des Français. Et ça se traduit concrètement. On a une station de métro ici à Toulouse qui honore la mémoire de Marcel Langer. Marcel Langer n'existe pas, n'a jamais existé. Il y avait ici, dans la résistance à Toulouse, un Polonais, juif, communiste internationaliste, qui avait fait la guerre civile en Espagne, qui avait fait la retirada, qui s'était retrouvé dans les camps, qui s'est retrouvé dans la résistance, qui a été arrêté ici à Toulouse. Il avait mis en place un groupe de combat à Toulouse qui a été arrêté, condamné à mort. Et si on regarde les termes par lesquels l'avocat général, le procureur, on dirait aujourd'hui le condamne à mort, c'est extrêmement éclairant. Vous êtes juif, étranger, communiste, et ça me donne 3 raisons de demander votre tête. C'est pour ça qu'on le condamne à mort, c'est pour ça qu'il est guillotiné à la prison Saint-Michel. Extraordinaire exemple dont on pourrait se servir aujourd'hui et depuis des décennies sur justement cet engagement de ces étrangers qui se considèrent malgré tout français, ou plus exactement, qui se considèrent au service de certaines valeurs, les valeurs de la République.
Eh ben on non. avait connu ça en Espagne aussi, avec les brigades internationales.
Et on avait déjà, effectivement, vu ça. Langer faisait partie de ces brigades. Eh bien, quand on décide de l'honorer, Mendel Langer, le Polonais, disparaît. Il devient Marcel Langer. Ça, c'est extrêmement intéressant. Comment ensuite expliquer, quand on retravaille sur cet exemple-là, un autre exemple, une jeune fille italienne de ce groupe-là, Rosina Bett, eh bien, sur les plaques qui honorent sa mémoire, c'est Rosine. Non, c'est pas Rosine. Elle s'appelait Rosina. Mais quand on explique ces choses-là aujourd'hui à des jeunes, souvent issus, d'ailleurs, de différents ailleurs, la structure de la population quand même, si on cherche un peu tous, les personnes qui, à une, deux ou trois générations, ne sont pas capables, viennent d'autres ailleurs, sont quand même majoritaires hein, aujourd'hui dans ce pays. Si on explique à ces personnes-là que des étrangers, il y en a eu avant eux, des personnes d'origine étrangère, il y en a eu avant eux, et que ces personnes-là, elles ont été capables, à un moment donné, certaines de ces personnes ont été capables de s'engager, de prendre tous les risques, y compris de risquer leur vie, parce qu'il y avait au-dessus d'elles un idéal dont elles estimaient qu'il valait la peine qu'on s'engage pour cet idéal. Bon, si on explique ça, on peut déjà commencer à raccrocher des jeunes qui se croient étrangers, c'est le cas de le dire, à cette histoire-là, parce qu'on leur a expliqué que c'était l'histoire franco-française, et qui découvrent avec stupeur, et parfois avec intérêt, évidemment, qui découvrent avec étonnement, en tout cas, que cette histoire de la France, c'est aussi une histoire des étrangers qui se sont engagés pour la France.
Donc une histoire plus que vivante.
Oui.
Alors le fond, ce sont les scolaires ici. J'espère qu'il y a plus que les scolaires quand
Bien
même.
Bien sûr qu'il y a plus que les scolaires.
Mais vous êtes quand même très dédié vers les scolaires. Vous faites alors j'ai noté le concours départemental de la résistance à la déportation. Alors quand on lit ça, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça?
Mais qu'est-ce que c'est?
Quesaco, comme on dit à Toulouse.
Exactement.
Alors dites-nous.
Quesaco. Alors déjà, on le dira à Toulouse, et puis on va le dire à Rennes, et puis on va le dire à Nantes, et puis on va le dire à Lyon, et puis on va le dire à Lille, parce que c'est le concours national de la résistance et de la déportation depuis 57 ans maintenant. Chaque année, l'éducation nationale propose aux élèves de 3e et de lycée de travailler en individuel ou en groupe, en travail collectif, sur un thème autour de la résistance et de la déportation. Cette année, justement, tiens, le thème du concours, c'était « S'engager pour libérer la France ». Ça, c'est le thème général. Et à partir de ces éléments-là, localement, on va travailler sur des cas qui incarnent justement ce thème-là, ici, des femmes, des hommes, qui se sont engagés pour libérer la France. Comment ont-ils fait ? Quelles ont été les étapes, quelles ont été les formes de ces engagements, quels en ont été les risques encourus, quels en ont été les résultats. S'engager pour libérer la France, très bien, on a changé un drapeau nazi, on a mis un drapeau français de nouveau, est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas que ça. Quand on s'engage, quand on libère, à ce moment-là, on applique aussi des idées, des idéaux, des valeurs. On l'évoquait tout à l'heure, le programme du Conseil national de la résistance, qui est encore aujourd'hui, d'ailleurs, le socle du projet de société auquel nous appartenons tous. Et donc c'est aussi à partir de là qu'on va faire travailler les élèves, c'est-à-dire se servir par le biais de ce concours, dans le cadre de l'éducation nationale, travailler avec ces élèves sur une réflexion sur ce qu'est leur monde d'aujourd'hui. Il ne s'agit absolument pas d'un concours qui ne s'adresserait exclusivement qu'à des forts en thème. Bien sûr, il vaut mieux connaître les dates, bien sûr, il vaut mieux savoir qui est le général de Gaulle, bien évidemment. Mais à la limite, ce n'est pas ça le plus intéressant. Pour nous, le plus intéressant dans ce concours-là, dans les copies, dans les travaux absolument remarquables que nous avons, qui nous sont proposés à la correction, c'est justement que ces élèves nous disent, dans un espace qui redevient pour eux un espace de liberté, « Moi, ado de 15, 16, 17, ça me fait quoi de penser à cette histoire-là » Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça éveille en moi? Est-ce qu'en moi, il n'y a pas non plus des choses qui, moi aussi, me révoltent? Tiens, j'ai lu qu'un tel avait été révolté à ce moment, et que c'était cette révolte-là, ce moment-là, qui avait décidé de son engagement pour les mois et les années qui ont suivi. Et bien moi aussi, il y a des choses qui me révoltent et qui pourraient peut-être m'ancrer et m'organiser. L'intérêt aussi pour ces jeunes, c'est de voir que certaines de ces révoltes à l'époque ont été éparpillées, ont été spectaculaires, mais parfois n'ont pas été très efficaces. Et que les révoltes qui ont été les plus efficaces, ce sont celles qui ont réussi à se structurer, à s'organiser, pour simplement passer du « je suis contre » à « si je suis contre ça, je suis en revanche pour ces choses-là, ces valeurs-là, ces principes-là. » Et pour arriver à transformer les choses, alors il faut que je m'engage. Le concours de la résistance, c'est vraiment pour nous ici en Haute-Garonne le vecteur essentiel de l'éducation à la citoyenneté. Et c'est pour ça que le Conseil départemental en est ici sur le département le partenaire majeur essentiel de l'éducation
Donc
nationale.
Donc on prend une classe, et c'est une seule classe qui va travailler?
Ce sont tous les élèves qui le souhaitent.
Tous les élèves qui le souhaitent.
Donc ça peut être une classe, ça peut être quelques élèves dans la classe, ça peut être l'intégralité des élèves scolarisés dans tel ou tel collège. Ça, c'est le choix pédagogique des enseignants. Nous, on n'intervient pas à ce niveau-là. Là où nous intervenons, c'est sur une aide à la préparation. Production chaque année d'une plaquette départementale sur le thème du concours. Création ici d'une visite thématique en lien avec le concours. Animation régulière de notre site internet et de nos pages présentes sur les réseaux sociaux pour proposer des exemples, des petits films, des cas concrets qui vont permettre d'aider, de guider ces élèves-là. Ensuite, c'est les phases de correction. Ça appartient à l'éducation nationale, bien évidemment. Et en fonction de ces phases de correction, nous organisons la remise des prix. Nous dotons les prix, parce que malheureusement, l'éducation nationale, à ce niveau-là, n'a pas beaucoup de moyens financiers à nous accorder. Donc, si le conseil départemental n'était pas là, les élèves souvent se contenteraient d'une poignée de main et d'un merci très chaleureux, certes, mais bon, c'est aussi quand même un engagement. Donc, on dote de prix. C'est tous les ans 460 livres qui sont offerts. C'est aussi le financement, l'organisation et le financement d'un voyage de mémoire qui a lieu chaque année à la fin du mois d'août, où avec ces élèves-là, nous allons explorer des lieux de mémoire et comprendre encore une fois ce qu'ils nous disent de notre temps. Ça peut être en Autriche, ça peut être en Allemagne, ça peut être en Pologne, ça peut être en France. Cette année, le thème du concours était, je l'ai dit, s'engager pour libérer la France. Au mois d'août prochain, nous allons vers le sud-est de la France pour voir les traces de mémoire du débarquement de Provence. On parle beaucoup de celui de Normandie, si juin 44, on a raison. Il y en a eu un autre, le 15 août 44, en Provence, dans lequel beaucoup des soldats de l'armée française, tiens, j'ai pas dit soldats français, puisque beaucoup d'entre eux avaient l'insigne honneur de porter un uniforme français avec une arme, mais n'avaient pas l'honneur d'être citoyens de la République. C'était les tirailleurs algériens, les tabors marocains, les tirailleurs sénégalais, etc. C'est eux, ces armées, ces contingents majeurs des colonies françaises ou des territoires sous différents statuts qui étaient français de l'autre côté de la Méditerranée, c'est eux qui ont formé l'ossature essentielle de l'armée, de la première armée française, celle qui nous a libérer la majeure partie du territoire. On va aller voir ça. On va aller dans le nord-est de la France, du côté de Strasbourg, parce que là, il y a aussi des lieux qui parlent à notre histoire. La nécropole de la première armée française à Ziegelsheim, le camp de concentration du Struthof, le Parlement européen de Strasbourg, parce qu'il faut aussi parler de ces institutions, aujourd'hui pas très bien vues, aujourd'hui largement décriées. Il faut peut-être aussi revenir à pourquoi, à la fin de la guerre, on a voulu justement engager un processus de construction européenne. C'était pas des impératifs économiques qui l'ont dirigé, c'était clairement des impératifs politiques. Comment trouver des solutions pérennes pour qu'on arrête de se faire la guerre? Et puis une fois qu'on aura vu ça, on ira sur Paris, le troisième temps de notre voyage de mémoire, et à Paris, on va aussi explorer ce deuxième aspect, la libération de la France, oui, et la refondation de la République. Et nous allons amener ces jeunes dans des lieux qui incarnent cette refondation de la République et cette mémoire de cette période-là, les Invalides, le Sénat, le musée de l'Ordre de la Libération, le Panthéon.
Alors j'attendais que vous y veniez au Panthéon. Est-ce qu'on n'instrumentalise pas certains résistants? Est-ce que le fait d'y ramener Simone Veil et Antoine, son mari, c'est quoi? C'est véritablement honorer des résistants, honorer leurs valeurs et puis leur combat, et peut-être le faire nôtre aujourd'hui? Ou alors c'est faire de la communication politique?
L'un ne va jamais sans l'autre, surtout dans les mondes dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Ceci dit, un président de la République, quel qu'il soit, je le pense, je le crois, ou en tout cas je veux le croire encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ne se limiterait pas, ne se bornerait pas à accorder cet honneur uniquement pour des raisons ou des calculs politiques. Comme disait un de mes collègues historiens sur Paris lors du commentaire dimanche dernier, quand on met quelqu'un au Panthéon, c'est pour longtemps.
Par définition, oui.
Voilà, donc on est quand même là sur un engagement majeur. Le Panthéon a été, dans son temps, et surtout les premières années d'ailleurs de sa réaffectation en tant que cénotaphe de nos grands disparus, a été un lieu d'affrontement politique. Et d'ailleurs, là, à cette époque-là, je parle des années 1795-1840-50, certains y rentraient, d'autres en sortaient, certains y sont revenus, bon, il y a eu une sorte de petit micmac. Les choses se sont largement apaisées à ce niveau-là, et aujourd'hui, vraiment, ce que l'on remarque, quand l'on parle de la panthéonisation, c'est qu'on est vraiment sur des figures qui, justement, dépassent les propres individus. En ce qui concerne la résistance, le dernier acte majeur, Simone Veil a été déportée en tant que juive, parce que née juive, sur cette histoire de la déportation, et toute la mémoire qu'elle a pu porter, d'ailleurs, pour la mémoire de la Shoah. Pour la résistance, le dernier acte majeur, c'était le 27 mai 2015, le précédent président de la République, François Hollande, qui décide la panthéonisation de quatre figures majeures de la résistance. Pourquoi le 27 mai? Parce que depuis quelques années déjà, le 27 mai avait été décrété journée nationale de la résistance dans notre pays. Décret, d'ailleurs, décision qui a été prise par un vote de la représentation nationale. Et il faut le dire parce que c'est quelqu'un de chez nous qui a permis ça. C'est Jean-Jacques Mirassou, l'homme politique toulousain, qui est aujourd'hui conseiller départemental, qui était sénateur, et qui, en tant que sénateur, a déposé ce projet de loi. Elle s'appelle d'ailleurs la loi Mirassou, considérée chaque année le 27 mai, que ce sera en France la commémoration de la journée de la résistance. Pourquoi le 27 mai ? Symbole extrêmement important. Le 27 mai 1943, à Paris, c'est la première réunion du Conseil national de la résistance. C'est-à-dire des personnes qui viennent de tous les horizons, de tous les bords politiques, qui s'étaient d'ailleurs très souvent affrontés extrêmement violemment avant la guerre, dans les années 30, et qui pourtant vont oublier à un moment donné ces différences et ces affrontements pour s'asseoir autour de la même table et dire nous sommes conscients de nos différences, de nos divergences et de nos affrontements. Il n'y a pas de problème, on en est conscients. Mais si nous voulons qu'ils puissent un jour de nouveau revivre, alors nous devons les mettre de côté temporairement. C'est ça aussi l'histoire de la résistance. La résistance, c'est ce moment dans notre histoire où on se dit ce qui nous rassemble est infiniment plus fort que ce qui nous sépare. Ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qui nous sépare. Ça veut dire que nous nous focalisons sur ce qui nous rassemble. C'est peut-être un peu de ça dont nous manquons aujourd'hui. Quatre figures transposées en 2015, deux hommes, deux femmes. Deux figures, c'est essentiellement Simone Veil, bien sûr, transposée dimanche dernier au Panthéon. Pourquoi Simone Veil ? Simone Veil a été une femme politique. Femme d'un parti politique. Et femme, ça veut dire qu'elle portait des idées politiques. Ces idées, tout le monde ne les portait pas forcément, pas nécessairement. Mais Simone Veil, fut-elle femme politique, avait au-delà de ça un respect mutuel, une culture de ce que doit être le respect mutuel dans ce pays. Peut-être que cette culture du respect mutuel, d'ailleurs, lui venait de son expérience vécue, terrible, vécue dans les centres d'extermination et dans les camps de concentration. Toujours est-il qu'elle était quelqu'un qui était respecté parce qu'elle était respectable. Et c'est de ça aussi, de ces figures-là, dont nous avons besoin. La nation s'est retrouvée, par exemple, autour d'un geste altruiste absolument extraordinaire et pour lui si normal, celui du colonel Beltrame.
Pour lui, si normal. Il était aussi officier de gendarmerie. Là, voilà. C'est peut-être un peu moins normal, mais bon, c'est quelque chose.
Pour lui, le geste était évident. Il l'a fait sans se poser de questions plus que de raisons, on va dire, en sachant parfaitement ce qu'il faisait, parce que pour lui, ça s'incarnait comme ça. Et il n'y avait pas besoin de faire des débats. Et on voit bien comment les personnes dans notre pays se sont retrouvées là aussi autour de sa mémoire.
Est-ce qu'on n'en a pas besoin de ça ? On est un peu comme des assoiffés quand on en voit un qui fait ce type de geste. Ça paraît absolument extraordinaire, alors que bon, bah, tout le monde n'est pas un héros, mais enfin, globalement, ça devrait être quand même une tendance un peu plus généralisée. On a l'impression qu'on est à l'oasis, là, qu'on est dans un désert et qu'on arrive à l'oasis.
C'est exactement ça.
C'est un peu inquiétant.
C'est très inquiétant. C'est peut-être aussi, je vais y voir une lueur d'espoir ou d'espérance, le fait que ce soit quelque chose qui soit largement vécu et ressenti simultanément par un nombre de personnes très diverses, m'amène peut-être à me dire que nous sommes peut-être un peu moins nombreux que nous le pensons à nous dire qu'il faudrait qu'on arrête de simplement se regarder le nombril. Peut-être que le monde, la société dans laquelle nous sommes, dans laquelle on évolue, dans laquelle on continue d'être soumis à tant de désirs, à tant de volontés d'avoir, de posséder, d'être, etc., nous gêne de plus en plus parce que nous ne nous y retrouvons pas. Forcément, peut-être qu'on s'y retrouve en termes de bien matériel, mais de bien intellectuel, mental, spirituel, vous y mettez le qualificatif que vous voulez, je suis peut-être un peu moins sûr. Peut-être que ça, c'est le signe, les frémissements en tout cas, d'une réflexion plus vaste, plus générale de personnes qui se disent « Où sont nos repères aujourd'hui ? Où sont nos repères ? Où est l'idéal ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être citoyen de la République française ?» Simplement ça. Non pas citoyen d'une société libre, libérale, démocratique, etc., citoyen de la République. Ces trois mots-là, liberté, égalité, fraternité, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait dans nos gestes quotidiens ? Peut-être que, et nous, c'est ce que nous essayons de promouvoir ici, peut-être que la clé, elle est là. On n'a pas besoin de la chercher très très loin. Il y a ces trois mots qui sont là, qu'on voit, qu'on a l'habitude de voir, et qu'on ne lit plus d'ailleurs, on ne sait même plus trop ce qu'ils veulent dire, on n'y réfléchit pas beaucoup. Peut-être que si on veut de nouveau penser à un avenir commun, conjoint, supérieur, en tout cas, qui nous donne envie d'y aller ensemble, ben peut-être qu'il faudrait simplement prendre des échelles, monter en haut des frontons, décrocher ces trois mots-là, qui sont un peu loin, un peu inaccessibles, on les décroche et on les jette surtout pas. On les pose sur la table de nos pratiques. Et on regarde à chacun de nos actes, à chacune de nos pensées, à chacune de nos commentaires sur les réseaux sociaux, où on est trop si prolixe pour être convaincu d'avoir la vérité infinie et absolue, puisque c'est nous qui avons écrit telle ou telle chose. Peut-être que si on mettait chacun de nos actes, chacune de nos paroles, chacun de nos verbes à l'aune de ces trois mots-là, peut-être qu'on regagnerait, je ne sais pas, en sagesse, en tout cas en raison.
On pourrait même peut-être en rajouter un quatrième, laïcité.
La laïcité, c'est le socle, bien évidemment. La laïcité, c'est cette liberté de conscience qui nous permet d'écouter l'autre à partir du moment où l'autre accepte de nous écouter. La laïcité, c'est quelque chose dont on ne parlait pas du tout, si vous vous souvenez. Il y a, je sais que tous vos auditeurs ne sont pas des jeunes étudiants ou lycéens, quelques-uns ont peut-être un peu plus d'années que ça. Et bien, si on se souvient bien, il y a 30 ans dans notre pays... La laïcité, personne ne nous en parlait. C'était comme l'air qu'on respirait.
Peut-être qu'on n'en avait pas besoin d'en parler aujourd'hui, dans la mesure où elle est un peu chatouillée, voire même menacée d'ailleurs.
La laïcité est extrêmement menacée dans notre pays. La laïcité, c'est absolument pas la liberté religieuse. C'est pas du tout ça. La laïcité, c'est la liberté de conscience. Le droit de croire ou de pas croire, mais aussi de dire ou de pas dire, de montrer ou de pas montrer, et enfin de conserver nos croyances, nos convictions, quelles qu'elles soient. Ou d'en changer. Ça, c'est le socle commun. La laïcité, en fait, c'est une culture. C'est la culture du respect mutuel. C'est pas la tolérance. Attention, surtout pas. La tolérance, c'est vraiment un faux ami de la laïcité. Le mot a l'air beau, sympathique, charmant, etc.
Qui disait qu'il y avait des maisons pour ça.
Voilà. Il avait pas tort. Il avait sincèrement pas tort, parce que la tolérance, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que la tolérance, c'est moi qui vais mettre mon curseur sur mon niveau de tolérance par rapport à vous. Bien évidemment, je ne vous en ai pas informé au préalable. Et comme chacun va avoir son curseur différent, suivant la personne à qui vous allez vous adresser, vous allez vous trouver face à des niveaux plus ou moins importants de tolérance. Comment on fait pour construire un commun si chacun adapte son niveau? Surtout que ces niveaux peuvent changer d'un jour à l'autre. Ma patience a des limites, on le sait tous, on a tous utilisé cette phrase-là, et parfois les joues de certains de nos membres de nos progénitures ont pu être un peu cuisants à la suite de cette phrase-là. Bon, très bien. Surtout, il y a autre chose dans la tolérance. La tolérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au fond de nous, on sait que c'est nous qui avons raison. Mais bon, comme on est ouvert, tolérant, on accepte que des personnes, même si elles sont dans l'erreur, puissent avoir le droit d'exprimer ce qui n'est quand même malgré tout que leur erreur. La tolérance, c'est « je sais que j'ai raison par rapport à toi, mais je te laisse quand même exprimer ton erreur ». C'est ça, la tolérance. Et ça, c'est très grave. La laïcité, c'est pas
c'est
ça
pas,
du
je
tout.
Ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je ferai... c'est ce que dit Voltaire à propos de l'affaire Calas.
C'est ça. La tolérance, c'est une arme extrêmement... Alors que le mot a l'air merveilleux, fabuleux, extrêmement... Non, la tolérance, c'est quelque chose dont il faut absolument se méfier. Et comme le disait effectivement le général de Gaulle, il y a des maisons pour ça. Par contre, la laïcité, c'est la culture du respect mutuel. La laïcité, c'est ce moment extraordinaire dans notre vie, et ça se traduit par la fraternité, où nous nous disons, individuellement et collectivement, je ne peux pas tout tout seul, je ne sais pas tout tout seul, et j'ai besoin des autres. La fraternité... C'est comme ça qu'elle va s'exprimer le mieux. C'est l'exact opposé d'un poison qui est en train de, faut se le dire très tranquillement, mais très sérieusement, qui est en train de flinguer notre société, notre modèle social, notre modèle républicain. Et ce poison, ça s'appelle le communautarisme. Mon groupe me suffit à moi-même. J'ai pas besoin d'aller voir les autres. J'ai pas besoin d'écouter ce que me disent les autres. J'ai pas besoin de simplement savoir qu'il y en a d'autres que moi qui pensent autrement que moi. Ça, c'est le communautarisme dans tous les domaines. On le connaît surtout religieux, il existe dans bien d'autres domaines que celui-là. Le communautarisme, c'est, puisque j'ai pas besoin des autres, je les ignore, puis rapidement je vais les voir comme une menace, et on est toujours dans la même logique. Tout ce qui nous menace, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'attaquer. On va l'attaquer parce qu'on prétend, à tort ou à raison, que c'est une menace. Et si on l'attaque, on dira toujours que c'est pour se défendre. C'est toujours ceux qui disent qu'ils s'en défendent qui sont les premiers à attaquer. Dans la laïcité... Il y a justement la possibilité de s'exprimer, de ne pas être d'accord, et de respecter le fait qu'on ne puisse pas être d'accord. Mais toujours, tout le temps, dans un respect mutuel. S'il n'y a pas de respect mutuel, on pourra broder pendant des heures sur l'esprit de résistance, sur les valeurs de la République, ça ne sert à rien. ça ne sert à rien, parce que d'emblée, on a évacué ce qui est la condition sine qua non.
Guillaume Aguilot, je suis sûr qu'on reprendra cette conversation, parce que nous n'avons fait qu'effleurer des thèmes qui mériteraient quelques heures de développement. On va faire un tour dans les étages ?
Avec plaisir.
Allez, je vous suis. Voilà, nous avons pris un peu de hauteur. On est au premier étage du musée de la Résistance, grande salle, avec des paquets, des chemins d'affiches, c'est ça ? Un peu un cheminement ?
C'est ça. Là, nous sommes dans les salles d'exposition temporaires. Nous avons actuellement une exposition qui s'appelle « Gamin d'hier, ado d'aujourd'hui », où le principe est assez simple, mais aussi un petit peu original. Nous avons pris 8 figures de jeunes, d'adolescents, de gamins d'hier, des temps d'avant, 4 garçons, 4 filles, 4 jeunes hommes, 4 jeunes femmes, suivant comment on peut les considérer, qui ont chacun des choses à nous raconter. Mais plutôt que ce soit nous, simplement, qui racontions ces histoires-là, on a mis face à ces 8 exemples d'avant, 6 jeunes d'aujourd'hui. 6 ados d'aujourd'hui, alors les âges là sont très variables, le plus jeune avait 11 ans, Hippolyte, que je vois là avec sa petite bouille absolument adorable sur la petite photo de notre panneau, et les deux plus grands, les deux plus âgés, Marie et Philippe, eux avaient 22 ans au moment de cette préparation d'exposition. On s'est dit que ça serait intéressant de mettre ces jeunes-là, ces jeunes d'aujourd'hui, face à ces gamins d'hier, et de voir comment ils pouvaient nous en parler de ces gamins d'hier, pour voir s'ils étaient finalement si différents que ça. On les a fait travailler tous ensemble sur les 8 cas. Chacun ensuite, on a essayé un petit peu de voir celle qui avait les choses les plus fortes à nous transmettre. Et donc, ils sont devenus les figures pour chacun de ces exemples. Donc, on a des choses très très variables. On a une figure nationale extrêmement connue, c'est Edgar Morin. Edgar Morin qui est très très connu aujourd'hui et qui à l'époque est un gamin de 18 ans qui fuit Paris parce que les Allemands arrivent, on est en 1940, qui saute dans un des tout derniers trains qui peut quitter Paris et qui au bout de cet exode ferroviaire arrive dans une ville dont il a à peine entendu parler, qu'il ne connaît pas ou dans laquelle il ne connaît personne et qui s'appelle Toulouse. Il arrive chez nous à la gare Matabiau, il n'y connaît rien ni personne, il est séparé de ses proches, de sa famille. Pour lui c'est à la fois un déchirement mais aussi une nouveauté. Il faut bien que je m'en sorte, il faut bien que je fasse quelque chose. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'un seul coup? C'est la liberté complètement affolante qui s'offre à lui au moment du chaos de notre pays. Et bien, c'est ici, à Toulouse, qu'il va aussi cette rage et cette énergie qu'il va mettre à profit. C'est ici qu'il va commencer cette activité de résistance qu'il va développer ensuite ailleurs, un peu dans la région lyonnaise et finalement de retour à Paris. Donc on a Edgar Morin, mais on a aussi Raymond Delamouille. Alors Raymond, qui vient nous voir encore de temps en temps, ici au musée, qui est une ado, ici à Toulouse. Elle a 17 ans, en novembre 1942, le 11 novembre, où elle décide d'aller voir, avec quelques copines, d'aller au Monument aux Morts de Toulouse, qu'on connaît bien, ce magnifique site, tout le monde voit où il est, et simplement pour rendre hommage aux soldats qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'on est dans un temps qui est quand même pas facile. Chose étonnante, le régime de Vichy interdit les commémorations du 11 novembre. On ne peut pas commémorer une victoire sur l'Allemand. Eh bien, elles y vont, elles sont quelques copines, elles bravent cette interdiction, elles ont 17 ans. Et au moment où elles sont en train de se recueillir, il y en a une qui entend un bruit derrière. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On se retourne, c'est les chars, les chenilles des chars allemands qui sont en train d'occuper la ville de Toulouse. Et là, Raymond a des phrases assez extraordinaires. La rage nous monte, la colère, la tristesse nous monte. Nous nous mettons à pleurer et sans que nous nous parlions, nous nous retournons toutes vers le mur. On ne voulait pas leur offrir nos larmes. Et ça, c'est quelque chose de très très fort qui a énormément ému les jeunes qui l'ont entendu, et parce que ce qui va ensuite en créer la résistance, le ciment de la résistance de Raymond, il est dans ces larmes-là. Et pour montrer aussi ce qui peut se faire, on a donc ensuite 6 autres exemples. Antoine Peyrot, un jeune ici du Comminges qui est parti au STO, Annie Beck, une enfant cachée. On en parle beaucoup de ces enfants cachés. Et ben là, justement, les jeunes ont eu l'opportunité d'en rencontrer une, Annie Beck, puisque Annie Beck est toujours de ce monde et a pu venir les rencontrer. Les jeunes ont pu travailler en direct avec elle. Et c'est vrai que la rencontre entre Annie Beck, petite mamie absolument adorable de 92 ans, et tous ces jeunes a été un moment très très fort justement de fraternité et de partage. C'est ça qu'on voulait, que ces jeunes ne se sentent pas exclus de cette mémoire-là et qu'en réalité qu'ils comprennent que les jeunes d'avant ne sont pas si différents de ce qu'ils sont eux aujourd'hui. Rosina Bett, cette Italienne qui s'est engagée dans la résistance ici à Toulouse.
Dont vous parliez tout à l'heure.
Dont je parlais tout à l'heure et qui est morte des conséquences de sa blessure. Elle a mené une action militaire contre un cinéma de Toulouse, le cinéma Les Variétés, le cinéma UGC, aujourd'hui, parce que ce cinéma passait régulièrement des films de propagande antisémite. Et donc elle, avec un groupe, un petit commando, sont allés y faire exploser une bombe. La bombe était artisanale, elle s'est déclenchée au mauvais moment. Grièvement blessée, elle est morte des conséquences de cette action. Jean Saint-Aroman, lui, résistant cheminot, tiens, on en parle beaucoup aujourd'hui aussi de ces cheminots dans notre actualité. Eh bien lui, Jean Saint-Aroman, ce n'était pas un leader syndical, c'était un cheminot qui a utilisé justement son travail pour aider la résistance, faire passer des messages, cacher des personnes, leur empêcher de partir, etc. Pour ces faits de résistance, il a été arrêté, il a été déporté dans un camp de concentration au nord de l'Allemagne, à côté de Hambourg, qui s'appelle Neuengamme. Il a été libéré extrêmement affaibli par les armées britanniques, et il a eu la possibilité d'écrire un courrier à ses parents, une lettre. C'est extrêmement émouvant dans cette lettre, parce qu'il dit ça a été très dur, ils ont eu ma couane mais ils n'ont pas eu mes os, parce que la bête est solide, le chien est solide, vous le savez. Et il a écrit cette lettre: maman, tiens bon, ton fils revient, je reviens, etc. Malheureusement, quand cette lettre est arrivée à Toulouse, deux jours avant, la famille avait reçu un autre courrier. C'était un télégramme de la Croix-Rouge pour leur annoncer que malheureusement, leur fils était décédé des suites de la déportation. Il est mort une fois libéré, mais il n'a jamais revu les siens. Et ça aussi, c'était un exemple extrêmement émouvant, le contact physique avec cette lettre-là. Enfin, nos deux derniers témoins et cas et exemples de l'époque, c'est Robert Marco. Robert qui a témoigné pendant de très très nombreuses années. Robert qui a été arrêté à 15 ans parce qu'il était juif, parce qu'il était né juif. Robert, qui avec sa famille était même pas caché, pas réfugié, qui était à Capendu, dans l'Aude, c'est pas très loin de chez nous, et qui un jour a été arrêté à Capendu par la gendarmerie française, parce qu'il était juif, simplement parce que juif, qui est arrivé à Auschwitz avec toute sa famille, ses parents, son frère aîné, sa sœur cadette, et qui sa mère qui lui disait « reste avec moi, reste avec moi », et dans une colonne qu'il a menée, il savait pas où, son frère est parti dans une autre colonne désignée par un SS, et il a senti confusément qu'il fallait qu'il suive son frère. Il a traversé, il a quitté la colonne dans laquelle il était pour rejoindre celle où était son frère. Des coups très forts, très violents qui l'ont laissé complètement assommé. Ceux de la colonne qui le récupèrent, ils l'ont emmené ailleurs. Comme il dit toujours, ce jour-là, j'ai sauvé ma vie, j'ai sauvé ma vie. Mais j'ai jamais pu dire adieu aux gens que j'aimais parce qu'il ne les a pas vus partir, puisque l'autre colonne, évidemment, on le sait, il l'a su très vite, il l'a compris très très vite déjà à l'époque. Aujourd'hui, nous le savons, cette colonne partait au four crématoire. C'est la colonne qui a vu partir ses parents et sa jeune sœur. Ses deux sœurs, dont la petite sœur Claude, dont il se sentait être le protecteur en réalité, et qui a été la blessure de toute sa vie, qu'on voit là sur cette photo. Et enfin Conchita Ramos, qui vit toujours, résistante, qui était agent de liaison dans des maquis en Ariège, différents maquis, qui a été arrêtée pour ses faits de résistance. Hein. On dit oui, il y a des grands, des petits résistants. Ben, Conchita Ramos, agent de liaison, ses faits de résistance, qu'on ne pourrait pas considérer comme extraordinaires, l'ont quand même envoyée en camp de concentration, à Ravensbrück, dont elle est revenue extrêmement meurtrie, extrêmement affaiblie, extrêmement marquée, bien sûr. Et puis elle a eu cette chance-là, un jour de 1946, sur les allées Jean Jaurès à Toulouse, alors qu'une de ses toutes premières sorties, quand elle commençait à se sentir prête à affronter l'extérieur, elle est sortie dans la rue avec sa cousine, avec sa mère, et puis en descendant les allées, elle a vu monter un petit groupe d'Espagnols, et deux se sont reconnus, mais je te connais, mais toi aussi je te connais. Elle a retrouvé à ce moment-là le guérillero espagnol, le maquisard, du maquis où elle allait porter des messages et où il s'était échangé un peu plus que des papiers, des documents, parfois quelques regards, peut-être quelques gestes tendres dans cette clandestinité. Un jour, Conchita n'était plus venue. José avait appris qu'elle n'était plus là. Ils se sont retrouvés en 1946, au printemps 1946. Ils se sont mariés à l'automne 1946, à Varilhes, la commune où ils s'étaient retrouvés. Et ils sont restés ensemble jusqu'à ce qu'il y a quelques années, malheureusement, José décède. Aujourd'hui, Conchita vit toujours. Elle est dans une maison de retraite. Elle est très fatiguée, très très fatiguée. Mais son cœur et son esprit sont toujours là, toujours avec nous. Et c'est de ça aussi que l'on voulait montrer que, oui, l'amour, ça sert aussi à guérir des blessures. C'est toujours difficile. On n'oublie rien de ce qu'ont été notre propre histoire, nos propres blessures, nos propres fêlures. Mais on n'est pas tout seul. On n'est jamais tout seul, vraiment tout seul, pour les affronter. Et c'est aussi dans le regard, dans la bienveillance des autres qu'on peut trouver les moyens, justement, de s'élever, de grandir et de poursuivre un chemin, à condition qu'on accepte de le faire ensemble. C'est un peu tout ça, qu'on essaie d'expliquer.
On retrouve ici au premier étage de ce musée.
Dans cette exposition que nous devions arrêter d'ailleurs le 29 septembre, qui est en place depuis le début de cette année civile, depuis début 2018. On devait l'arrêter le 29 septembre. Et en fait, à la demande insistante, amicale et parfois même très pressante de certains professeurs, de certains enseignants ou de certaines personnes, on a décidé de la prolonger. Et donc cette exposition, vous aurez le plaisir de la retrouver ici dans nos murs jusqu'au 29 décembre 2018. Et on vous accueillera pour vous la présenter avec grand plaisir.
Bon, on en reparlera. Donc ça, c'est le premier étage. Et qu'avons-nous d'autre ?
Au deuxième étage, nous avons les collections permanentes, c'est-à-dire la mise en œuvre, la mise en scène de la collection des documents, objets, de tous ces dons, de tout ce que ces personnes nous ont confié, nous ont fait confiance pour nous livrer ces pièces d'eux-mêmes, de leurs histoires, de leur famille. Et donc au deuxième étage, une grande salle sur la résistance, une pièce plus petite, plus intime sur la déportation, la mémoire de la déportation, pour là aussi expliquer comment ces choses-là, ces histoires-là, ces événements-là se sont incarnés chez nous, ici, en Haute-Garonne, à travers ces femmes et ces hommes, au bout de leur compte, au bout de leurs engagements, au bout de leur combat, notre liberté.
Un mot fort, on peut peut-être quasiment conclure là-dessus, si ce n'est que j'ai retenu ce que vous avez dit tout à l'heure, le musée va fermer,
oui.
Un peu de temps, mars 2018, c'est ça ?
Mars 2019.
À 2019, donc ça nous laisse quand même, on est déjà en on est déjà
tout en augmente.
2018, absolument. Et va rouvrir quelques mois après. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez changer d'endroit ou vous allez faire une extension ?
Nous restons dans ces murs qui commencent à leur tour aussi à avoir, ça y est, une histoire, une âme, un esprit. Il s'agit d'une extension, en fait, du bâtiment sur l'arrière, sur la terrasse arrière, deux salles pédagogiques pour accueillir dans de meilleures conditions les nombreuses classes qui viennent ici. C'est 450 classes tous les ans, quand même, qui viennent au musée. Donc, c'est pas neutre, c'est pas rien. De meilleures conditions pédagogiques, évidemment, pour les accueillir, d'une part. Et puis, ces salles pédagogiques, rassemblées en une, vont nous permettre aussi d'accueillir des événements, des spectacles, des présentations d'ouvrages, des présentations de films, des documents, des portes ouvertes aussi, pourquoi pas, des jeunes historiens, des jeunes chercheurs.
On va peut-être passer le film de Francis Fourcou sur Lorette.
Bien sûr. Le film de Fourcou, de Francis Lorette, une volontaire au camp du RCB12, ouais, sera largement le bienvenu. On commence là, on va enclencher un travail d'ailleurs mémoriel avec l'ami Francis Fourcou dès la rentrée prochaine pour permettre à des établissements scolaires de disposer d'extraits de son film extraordinaire, complété avec des documents pédagogiques qui permettront, là encore, à des professeurs de transmettre cette histoire-là à leurs propres élèves. Un étage, en plus de cette salle, un étage de bureau, on manque de place, vous l'avez vu, un étage aussi pour accueillir les chercheurs dans de meilleures conditions, plus de confort, et puis la possibilité aussi pour les visiteurs individuels, qui étaient plus rares il y a quelques années, et dont le nombre est en train d'augmenter de plus en plus, ce besoin, encore une fois, de savoir et de comprendre, de les accueillir là aussi, pour ce public-là, individuel, les petits groupes, les accueillir dans de meilleures conditions pour leur apporter ce qu'ils viennent chercher ici, c'est-à-dire également des réponses et des éléments de compréhension. Toujours pareil, le monde dans lequel nous sommes est incertain et complexe, et on peut essayer au moins d'y chercher des réponses, des éléments de compréhension qui vont nous permettre de pouvoir agir en conscience.
Eh bien, merci à notre conseil départemental de nous avoir fait ce bel outil, de le perpétuer, de l'agrandir, parce qu'ils vont vous donner des moyens supplémentaires. Et puis merci à vous, Guillaume Agulot, de nous avoir accueillis dans votre maison, de nous avoir si bien expliqué toutes ces valeurs, tout le fondement de cette résistance. Et puis je suis sûr que sur Esprit Occitanie, on va se retrouver bientôt.
Merci beaucoup.
Merci au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, avec une mention spéciale à Guillaume Agulot, son directeur. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne, avec à la technique l'équipe habituelle du lycée de Zarennes, que l'on remercie chaleureusement. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site de la station, et bien évidemment, comme toujours, avec tous les autres podcasts. Bonne semaine à toutes et à tous. Adieu.